VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du lundi 20 janvier 2020. Martin Luther King Day, journée MLK, leader assassiné du mouvement des droits civiques, jour férié et chômé ici aux États-Unis. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, le retour de l'armée à Kidal a été abordé lors d'une réunion hier à Bamako du Comité pour le retour de la paix.
Accord international à la conférence de Berlin sur la Libye pour relancer les efforts de paix dans ce pays. Promesse de respecter un embargo sur les armes et de ne plus s'immiscer dans ses affaires intérieures.
Sommet sur l'investissement aujourd'hui à Londres entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et 16 dirigeants africains pour élargir le panel des partenaires commerciaux du Royaume-Uni.
Au Liban, plus de 520 personnes blessées en deux jours dans les violences de samedi et de dimanche entre les forces anti-émeutes et les manifestants anti-gouvernementaux.
La Chine a fait état lundi d'un troisième mort d'un mystérieux virus apparu le mois dernier, alors que l'épidémie s'est propagée vers le nord et le sud du pays.
Ici aux États-Unis, c'est demain que s'ouvrent au Sénat les débats au procès en destitution du président Donald Trump.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, une réunion du CSA, le comité de suivi de l'accord de paix d'Alger, s'est tenue hier à Bamako afin de discuter notamment du retour des soldats maliens à Kidal. Le point avec Jean-Roger Bion.
Selon un document officiel, l'ordre du jour de cette rencontre prévoyait le redéploiement à Kidal des premières unités de l'armée nationale reconstituée, formées des forces armées maliennes, des combattants de l'ex-rébellion et des groupes armés pro-gouvernement. Le dialogue national inclusif, lancé mi-décembre avec l'opposition et la société civile et le lancement d'un fonds de développement des régions du nord du Mali, était également au menu de ces discussions. Quatre ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel étaient présents, ainsi que Smaïl Chergui, le représentant de l'Union africaine. C'est la première réunion du CSA depuis que les ex-rebelles Touareg ont suspendu leur participation en septembre 2019 après le report d'une réunion à Kidal. L'armée malienne n'a pas repris pied dans cette ville de l'extrême nord depuis sa lourde défaite dans des combats face aux rebelles en mai 2014 pendant une visite de Moussa Mara, le premier ministre de l'époque.
La conférence de Berlin sur la Libye a pris fin hier soir. Les principaux pays concernés par le conflit dans ce pays ont promis de respecter un embargo sur les armes et de ne plus s'ingérer dans ses affaires intérieures. Claire Morin-Gibourg.
Un accord international a été trouvé pour tenter de relancer les efforts de paix en Libye, même si les conséquences de cet engagement restent incertaines sur le terrain. Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'Union nationale à Tripoli, et Khalifa Haftar, qui contrôle l'Est libyen, ont refusé de se rencontrer lors de cette conférence. Un problème relevé par Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, qui a reconnu n'avoir pas réussi pour l'instant à lancer un dialogue sérieux et stable entre eux. Tant M. Lavrov que la chancelière allemande Angela Merkel, hôte de la conférence, ont parlé d'un petit pas en avant, tout en reconnaissant que beaucoup restait à faire pour parvenir à la paix. Principale avancée, les dirigeants de 11 pays, dont la Russie et la Turquie, ont souligné dans une déclaration commune qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit. Les participants ont aussi promis de respecter enfin l'embargo sur les livraisons d'armes à la Libye, décrété par l'ONU en 2011.
Et le président français Emmanuel Macron, soupçonné par ses alliés européens de faire bande à part en soutenant le maréchal Haftar, a demandé, lui, l'arrêt de l'envoi de miliciens syriens pro-turcs et de militaires turcs pour soutenir le gouvernement de Fayez al-Sarraj. Quant au secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, il a parlé de progrès vers un cessez-le-feu complet, même s'il reste des questions sur la capacité de la communauté internationale à en vérifier la réalité.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson doit rencontrer aujourd'hui à Londres 16 dirigeants africains lors d'un sommet sur l'investissement, a annoncé Downing Street dimanche dans un communiqué. Cette rencontre, qui réunira dirigeants et chefs d'entreprise des pays concernés, vise à élargir le panel des partenaires commerciaux du Royaume-Uni, alors que celui-ci s'apprête à sortir de l'Union européenne. Le président égyptien Abdel Fattah Sisi et le président kényan Uhuru Kenyatta sont attendus au sommet, tout comme le dirigeant nigérian Muhammadu Buhari et le Ghanéen Nana Akufo-Addo.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. La Chine a fait état lundi d'un troisième mort d'un mystérieux virus apparu le mois dernier, alors que l'épidémie s'est propagée vers le nord et le sud du pays à quelques jours des grands chassés croisés du Nouvel An chinois. Selon les autorités, l'épidémie était jusqu'ici confinée à Wuhan, dans le centre, une agglomération de quelques 11 millions d'habitants où le virus, de la même famille que le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, a fait son apparition le mois dernier.
Deux nouveaux cas ont été signalés à Pékin, au nord, et un autre à Shenzhen, la métropole de l'extrême sud, qui fait face à Hong Kong. Plus de 200 personnes à présent ont été contaminées dans tout le pays. Depuis vendredi, les États-Unis filtrent les vols en provenance de Wuhan à l'aéroport de San Francisco et à l'aéroport JFK de New York, qui reçoivent tous deux des vols directs de Wuhan, ainsi qu'à celui de Los Angeles, où sont assurées de nombreuses correspondances.
Le président américain Donald Trump a salué dimanche l'accord commercial signé avec la Chine, le jugeant bien meilleur que lui-même ne le prévoyait. « C'est un incroyable succès pour notre pays tout entier », a assuré M. Trump lors d'un meeting à Austin, au Texas, devant l'American Farm Bureau Federation, principale organisation patronale agricole américaine. Il s'est également félicité du nouveau chapitre ouvert dans les relations de son pays avec la Chine, les meilleurs que nous ayons eus depuis de nombreuses années. La Chine nous respecte maintenant, a-t-il affirmé. Les deux pays ont signé mercredi la phase 1 de cet accord commercial au grand soulagement des marchés financiers après des mois de friction et de tensions commerciales.
Ici à Washington, c'est demain que va démarrer pour de bon au Sénat le procès en destitution du président Donald Trump accusé par les démocrates de la Chambre des représentants d'avoir fait pression sur l'Ukraine pour la forcer à ouvrir une enquête sur un rival possible en 2020, l'ancien vice-président Joe Biden, ainsi que son fils Hunter. Hier, les principaux acteurs dans ce procès, accusation et défense, ont eu des échanges plutôt vifs à la télévision sur la question de savoir si une telle accusation méritait même, constitutionnellement parlant, une mise en accusation, voire une éventuelle destitution.
Au Liban, les forces anti-émeutes ont tiré hier à Beyrouth des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants anti-gouvernementaux qui leur jetaient des pierres. De nouveau, Claire Morin-Gibourg.
Pour le deuxième soir consécutif, des centaines de manifestants ont affronté les forces de l'ordre dans le centre-ville. En deux jours, plus de 520 personnes ont été blessées. Les accrochages de samedi ont été d'une violence inédite depuis le début de la contestation. Selon un comité des avocats pour la défense des manifestants, la majorité des personnes interpellées samedi ont été victimes de violences excessives, certains affichant des blessures à la tête, au visage ou aux organes génitaux. Face à cette escalade, le président Michel Aoun a convoqué aujourd'hui une réunion de sécurité. Alors que le mouvement de contestation était pacifique au départ, les affrontements se sont multipliés ces derniers jours, des manifestants attaquant notamment les vitrines des banques. En trois mois de contestation, la colère n'a fait que grandir parmi les manifestants qui fustigent l'inertie des dirigeants. La crise économique s'aggrave avec des licenciements en masse, des restrictions bancaires drastiques et une forte dépréciation de la livre libanaise face au dollar.
Au Yémen, plus de 100 personnes ont été tuées pendant le week-end dans une attaque aux missiles contre un camp des troupes gouvernementales pro-gouvernementales. Cette attaque a été attribuée aux rebelles après une forte baisse des violences ces derniers mois dans le pays en guerre depuis plus de 5 ans. C'est l'une des plus meurtrières contre les forces fidèles au président Abdelrabo Mansour Hadi. Depuis le début du conflit en 2014, elle n'a pas été revendiquée, mais le pouvoir a accusé les rebelles houthis.
En Australie, les feux ont brûlé plus de la moitié de l'habitat connu de 100 plantes et animaux menacés, dont 32 espèces en danger critique d'extinction, a annoncé aujourd'hui le gouvernement. Plus d'un milliard d'animaux ont péri dans la vague sans précédent d'incendies qui a ravagé l'est et le sud de l'île pendant des mois, brûlant une étendue plus grande que celle, par exemple, du Portugal. Un bilan précis pour la faune et la flore ne sera établi que dans plusieurs semaines. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nalit Talani.
Le Togo a investi 500 millions de francs CFA pour améliorer des infrastructures dans trois marchés à la périphérie de la capitale, Agoué Assiéyé, Kakaveli et Adidogomé. Les fonds serviront à construire de nouvelles boutiques, des boucheries, des latrines, des magasins de stockage et des hangars. Pour Kodzo Adedé, ministre togolais en charge du commerce, les sites concernés seront améliorés afin que les commerçants exercent leur métier dans d'excellentes conditions. Le cuivre a atteint son plus haut niveau en 8 mois et demi grâce aux importations chinoises et à la signature de l'accord commercial de phase 1 avec les États-Unis. Le prix du métal rouge a culminé à 6 340,50 $ la tonne jeudi, un niveau plus vu depuis mai 2019. À Londres, la tonne de cuivre pour livraison dans 3 mois s'échangeait à 6 288 $ vendredi contre 6 198 $ 7 jours plus tôt. Pour terminer, les cours du cacao ont connu une nette accélération avec un niveau record depuis plus de 3 ans à Londres. La tonne de cacao pour livraison en mars a atteint 2 003 £, un prix plus vu depuis la fin du mois de novembre 2016. À New York, elle est montée à 2 793 $, un sommet qu'on n'a jamais vu depuis mai 2018.
Les sports à présent avec Élisée Oupatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu demain mardi au Caire.
Oui, et la CAF a présenté les pots. 40 équipes reparties en 10 groupes de 4 chapeaux. Dans le premier figure bien sûr l'Algérie, le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria, le Maroc, le Ghana, l'Égypte, le Cameroun, le Mali et la RD Congo. On a dans le pot numéro 2, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Guinée, Ouganda, Cap-Vert, Gabon, Bénin, Zambie et Congo. Et puis Madagascar, Mauritanie, Libye, Mozambique, Kenya, République centrafricaine, Zimbabwe, Niger, Namibie, Guinée-Bissau sont logés dans le pot 3. Et enfin, Malawi, Angola, Togo, Soudan, Rwanda, Tanzanie, Guinée équatoriale, Éthiopie, Libéria et Djibouti dans le pot 4.
Direction Kinshasa avec la finale du Tifoko, ce tournoi amical entre les sélections de joueurs locaux.
Une sorte de répétition de préparation pour le CHAN qui se disputera en avril prochain au Cameroun et à domicile. La RD Congo a fait plaisir à ses supporters, victoire 3-1 contre le Niger. Le Congo-Brazzaville, vainqueur du Burkina Faso 1-0, prend la troisième place.
Les championnats nationaux à présent, au Bénin, la Ligue 1 en était à sa 14e journée.
Et le leader Aïma a été accroché à domicile par Énergie de la SV2E, un but partout. Le club d'Adjara compte 27 points, soit 2 de plus que son dauphin Dragon de Lomé, vainqueur 1-0 du Real Sport de Parakou. Esaü garde sa 3e place suite à sa victoire de 1 à Asvo. Pour le reste, Béké FC de Bemberéké sur classe 4-0, l'Union Sportive de Semi-Crac est désormais relégable. Notons le nul décevant enregistré à domicile par la Estolette de Boycon 1-1 devant la Jeunesse Sportive de Pauvert. Et puis, défaite surprise des Buffles du Borgou 1-0 à Calabi face à UPONM. Du coup, le champion en titre descend à la 7e place.
La 7e journée du côté de la Guinée est marquée par le derby de Conakry.
Et Oroya inflige à Afia sa première défaite de la saison, score 1-0. Le club de Matam est classé 2e et Afia 8e en Tunisie. L'Espérance de Tunis remporte le derby de 1 contre le club africain et file seul en tête à l'issue de la 7e journée. Et puis, en clôture de la 14e journée en Égypte, Al Ahly du Caire, solide leader au classement, est allé battre son dauphin arabe contractant sur la marque de 2-0.
Handball, fin du premier tour du 24e championnat d'Afrique des Nations, senior, homme, en Tunisie.
Oui, et la seconde phase est composée de 2 groupes de 4 équipes. Le premier avec l'Égypte, la RD Congo, l'Angola et le Gabon. Le second formé de la Tunisie, du Cap-Vert, de l'Algérie et du Maroc. Le programme de la première journée est déjà ce lundi. Égypte, Gabon, Angola, RD Congo, Cap-Vert, Algérie et Tunisie-Maroc. Et puis, du basketball pour finir, la NBA, la saison régulière et avec vous les résultats de la nuit.
San Antonio et Miami, 107 à 102. Indiana et Denver, 115 à 107.
aujourd'hui VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, les forces armées maliennes se renforcent avec l'acquisition d'engins blindés. Ces véhicules, dit-on, sont très performants et adaptés à la situation sur le théâtre des opérations. De Bamako, notre correspondant Karim Kassim Traoré.
Les premiers lots de 130 blindés de fabrication RIS ont été réceptionnés par la hiérarchie militaire. Dans ces lots, on trouve 7 véhicules blindés de type Typhon Kamax et des 4x4 de fabrication russe. 30 de ces blindés sont en don des Émirats Arabes Unis. Les 130 autres sont financés par le budget national du Mali. Général de brigade Mustapha Drabo, directeur du matériel, des hydrocarbures et des transports des FAMA.
Nous souhaitons que ces blindés prennent une part très active dans le nouveau concept d'opération et qui donne une large part à l'offensive. Les engins que vous voyez là sont spécialement conçus pour mieux résister aux embuscades et pour mieux résister aux engins explosifs improvisés et aux mines. Et ce sont ces deux types d'actions que les groupes armés mènent aujourd'hui et qui font le plus de pertes dans nos rangs.
C'est sur la place d'armes de Kati que l'Union européenne a procédé à la remise de 13 véhicules blindés tout-terrain Bastion. Ce lot est composé de 8 blindés destinés au transport de troupes, à la lutte anti-IED et 2 pour l'évacuation sanitaire. Et le dernier est aménagé en poste de commandement. Ils sont destinés à équiper les 2 bataillons maliens de la force conjointe du G5 Sahel. Le tout s'inscrit dans le cadre du projet d'appui de l'Union européenne à la force conjointe du G5 Sahel, financé via la facilité paix africaine mise en œuvre par l'expertise France. Angèle Lacosta, représentant de l'Union européenne pour le Sahel.
Ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont 13 véhicules pour la France conjointe du G5 Sahel, mais basé ici au Mali. Nous allons faire des livraisons similaires dans les autres pays du G5 Sahel avec ces mêmes véhicules blindés pour la force conjointe, comme je dis, pour qu'elle soit totalement opérationnelle depuis le début. C'est un effort très spécial que fait l'Union européenne qui appuie non seulement du point de vue militaire, mais également du point de vue politique et du point de vue financier la pleine opérationnalisation de la force conjointe.
Général de brigade Mustapha Drabo, directeur du matériel, des hydrocarbures et du transport des FAMA.
Nous en sommes très heureux. C'est le lieu de remercier l'Union européenne pour cette donation, qui n'est pas la première, et je pense qu'il ne sera pas aussi la dernière. Ces véhicules blindés sont destinés aux unités maliennes de la force conjointe du G5 Sahel, permettra d'améliorer la protection de nos femmes qui sont engagées dans cette opération.
En plus des blindés, un citoyen malien a remis les clés de 2 véhicules de transport de troupes de 54 places chacun au ministre de la Sécurité et de la Protection civile.
La présente donation est constituée de 2 véhicules de transport de marque Amaz de 54 places chacun. Ils sont robustes et très pratiques. Ils sont essentiellement conçus pour le transport de troupes sur tous les types de terrain.
Le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour équiper les forces de sécurité intérieure, mais que les citoyens spontanément viennent apporter leur contribution, je pense que dans un pays en situation aussi difficile que le Mali, cela est de bonne augure.
Par ailleurs, l'engagement des États-Unis au Mali et dans le Sahel, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en général, était au centre d'une audience que le président de la République a accordée à Stephen Lech de la Chambre des représentants de l'État de Massachusetts.
My role here in another nation. À voir, voir un moyen pour évaluer un peu toute l'aide que les États-Unis ont apportée. Une autre raison aussi à le sujet de discussion avec le chef de l'État a été de voir tout l'effort que le Mali déploie pour repousser les terroristes hors d'ici. Ils sont grés pour tout l'effort que le Mali est en train de déployer pour que l'État soit présent partout sur le territoire malien.
Toutes ces activités se passent dans la foulée des 59 ans de l'armée malienne célébrée ce lundi 20 janvier 2020. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Niger, l'opposition politique demande le départ du président Issoufou Mahamadou, responsable selon elle de la dégradation continue de la situation sécuritaire dans le pays. En l'espace d'un mois, plus de 100 soldats sont morts suite à des attaques de groupes terroristes. De Niamey, Abdelrazak Idrissa.
Dans sa toute première déclaration publique de cette nouvelle année, l'opposition politique n'est pas allée du dos de la cuillère accusant la gouvernance du président Issoufou Mahamadou d'être la source de la situation actuelle que vit le pays, notamment sur le plan sécuritaire.
La situation que nous vivons met à nu l'incompétence et la duplicité de Issoufou Mahamadou à gérer l'État. Le drame en cascade que vit notre peuple aujourd'hui et qui menace l'existence même de notre pays est, comme on le voit, imputable à la gouvernance promue par Issoufou Mahamadou. D'asymétrique, cette guerre vire donc en une conquête territoriale. L'ennemi se substituant dans plusieurs endroits à l'État du Niger, prélevant impôts et gérant des zones entières du territoire.
Pour tout cela, les partis politiques de l'opposition demandent au président Issoufou Mahamadou de partir pour que vive le Niger. En réaction à cette déclaration, le secrétaire à la communication du comité exécutif national du parti présidentiel estime que de tels propos sont indignes d'une opposition républicaine. Hiro Sani.
C'est vraiment irresponsable, c'est vraiment condamnable et c'est lamentable. Nous avons une opposition totalement indigne. Pour des gens qui pensent gouverner ce pays, ou des gens qui ont même eu à diriger ce pays-là, de se comporter de cette manière-là est totalement irresponsable. Dans quel pays on a vu que parce qu'il y a eu une attaque dans ce pays-là, alors le président de la République du pays doit quitter? Et s'il quitte, qui va monter au pouvoir?
Tout cela est la preuve d'une réelle tension politique en perspective des élections qui auront lieu cette année au Niger, estime Soumana Idrissa Mega, journaliste, directeur de publication du quotidien privé L'Enquêteur.
C'est la preuve que le climat sociopolitique est inquiétant, que le pays est en tension comme il ne l'a jamais été à cause de la politique présidentielle qui est jugée non seulement injuste mais aussi inefficace. Et le gouvernement porte, je crois, une responsabilité dans cette tension permanente parce qu'il exerce une certaine forme d'arrogance, de mépris à l'endroit non seulement de l'opposition politique mais aussi des différents corps intermédiaires de la démocratie qui sont les syndicats, la société civile, etc. Pour ce qui est du départ demandé du président de la République, elle ne manque pas de panache, mais une chose est sûre, Issoufou ne fait pas partie de la solution, il serait même le problème. Mais d'un côté aussi, on ne peut pas éteindre un incendie avec un arrosoir. L'opposition n'est pas crédible en demandant le départ du président. Les mots ne suffiront pas. Pour qu'on la croie, elle doit suivre sa déclaration d'actes concrets et on n'en est pas là encore, je crois. Quoi qu'il en soit, je crois que cette affaire laissera une trace. Elle va alimenter une nouvelle fois les désaveux des politiques. Une situation qui mène malheureusement à la démocratie au Niger.
Abdelrazak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique. Au Burkina Faso, une grève illimitée a été évitée de justesse dans les transports. Le secteur était dans la tourmente en raison d'une mésentente entre les structures syndicales qui le composent. De Ouagadougou, Kader Traoré.
La tension est retombée dans le secteur de transport au Burkina. 19 organisations se réclamant des transporteurs et routiers menaçaient d'amorcer une grève illimitée si rien n'était fait pour accélérer la création d'une fêtière. Cette structure des transporteurs routiers n'arrive pas à être mise en place à cause des désaccords entre les différentes formations syndicales de ce secteur d'activité. Pourtant, sa création est une exigence de la Banque mondiale et du gouvernement burkinabé afin d'avoir un seul interlocuteur. Finalement, c'est devant le Premier ministre que la crise a trouvé un dénouement, la grève éviter des justesses.
Je peux vous affirmer que nous sommes très bien compris et que l'engagement du gouvernement va en étroite vision avec l'ensemble des transporteurs.
Issoufou Maïga est le président de l'organisation des transporteurs routiers du Faso.
Nous allons travailler main dans la main pour résoudre cette crise répétitive. Nous avons reçu des conseils de la part de son Excellence Monsieur le Premier ministre et nous allons assumer en toute responsabilité pour que plus jamais la population burkinabé ne sente une frustration au niveau du secteur des transports routiers au Burkina Faso. Nous avons pu obtenir la continuité du processus de la mise en place de la fêtière et nous avons eu également un délai maximum de 30 jours pour que nous puissions finaliser cette structure qui sera une structure inclusive, représentative pour l'ensemble des transporteurs routiers du Burkina Faso.
C'est le même motif de satisfaction au sein des chauffeurs routiers. En plus de la mise en place diligente de la fêtière unique, ils avaient d'autres points de revendication. Bourema Rabo, président de l'Union des conducteurs et routiers du Burkina.
Nous avons été conviés pour revenir sur nos points revendicatifs de notre arrêt de travail qui s'est passé entre le 8, le 9 et le 10. Et c'était vraiment de nous rassurer que tout ce qu'ils ont tout entrepris est dommage pour vraiment mettre en œuvre nos revendications pour nous. en tout cas en tant que chauffeur routier du Burkina, n'a plus associé avec le Burkina, tout est enterré.
Ce dossier du secteur des transports était devenu très délicat à gérer au sein du ministère de tutelle. Il fallait résoudre le problème à un niveau supérieur. Vincent Dabilgou, ministre des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière.
J'ai demandé à ce que le Premier ministre vraiment nous accompagne. Nous sommes en tout cas entendus que le gouvernement va continuer la réforme pour faire en sorte que nous puissions avoir un texte consensuel sur la gestion du transport dans le pays, mais en particulier sur la gestion du fret. Parce que voyez-vous, nous avions une situation où le nombre de camions dépasse le fret que nous avions.
Cette grève illimitée était beaucoup crainte par la population car ses conséquences seraient incalculables. Elle n'aura donc pas lieu au grand bonheur de tous. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Le Bénin a célébré le 10 janvier dernier la fête des religions endogènes, une occasion pour s'interroger sur le rôle que peuvent jouer des dignitaires religieux et têtes couronnées dans la crise qui secoue ce pays depuis les dernières élections législatives. Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Les 10 derniers jours ont été marqués par de violents affrontements dans le nord du Bénin, occasionnant des morts civiles et des blessés graves dans le rang des forces de l'ordre. Le dialogue politique semble montrer ses limites et les regards sont tournés vers les chefs traditionnels et les rois pour aider au retour à la paix. Mais les gardiens de la tradition eux-mêmes sont méfiants quant à leur incursion dans ce dialogue. David Kofi Aza est prêtre du Fa. Il s'inquiète de la politisation des cours royales et couvents.
Tous les rois font de la politique, tout le monde fait de la politique dans le milieu traditionnel, parce que c'est facile d'avoir de l'argent en faisant de la politique dans le milieu traditionnel. Il faut qu'on commence à penser demain. Dans 25 ans, que sera le monde du vaudou?
Caliste Komalengi est chef traditionnel. Pour lui, en tant que garant de la tradition, les religions endogènes pouvaient bien aider à ramener la paix si la corruption et autres vices ne s'étaient pas emparés du monde traditionnel.
Les rois doivent apprendre à mériter la couronne qu'ils ont sur la tête. C'est une couronne qui fait Dieu un rassembleur. Il ne doit pas prendre cause et effet pour l'un au détriment de l'autre. On a amorcé une dissonance morale au sein de nos cours royales depuis que ceux qui connaissent un peu le français ont commencé par être intronisés. Ils ont transplanté l'esprit de la corruption et de l'escroquerie dans les cours royales.
Pendant que certains dénoncent la politisation à outrance des couvents et cours royales, d'autres pensent que pour s'assurer, le chef traditionnel n'a parfois pas le choix. Dajanili pense que pour avoir des dignités neutres, il faut que l'État pense à soutenir financièrement à travers un fonds les religions endogènes.
Mais on ne peut même pas les condamner. Parce que vous voyez, on dit, bon, dignité, je m'incline. Et tu t'inclines, moi, je n'ai rien à manger. C'est quoi ça là? Mais on ne confie rien aux dignitaires. Et ils vont manger. Alors, si on voit un député, si on voit un ministre, qu'on leur donne quelque chose, moi, je trouve qu'ils sont contraints de faire ça. Moi, je ne peux pas les condamner. Donc, celui qui n'a pas d'autres moyens, qui n'a pas d'autres sources de revenus, il doit faire ça. Je ne veux pas qu'on les condamne.
Le 10 janvier, lors de la fête des religions endogènes, certains fidèles ont fait part de leur désir de voir les religions jouer leur rôle pour le retour à la paix. Mais pour cela, il est important de se débarrasser de la politisation et d'avancer en toute neutralité, pense Rounobé Mbeza.
On doit beaucoup d'avenir, mais avant que l'avenir là nous prospère, ça va dépendre primo de nous qui sommes les dignitaires de la religion. Et nous devons protéger, nous devons prendre soin, nous devons rehausser notre tradition avant que les autres ne la prennent au sérieux. Le vaudou est tellement marginalisé qu'on ne taille aucune importance et je pense qu'un beau jour, les gens vont nous comprendre.
Travailler à redorer le blason des religions endogènes pour parvenir à être crédible aux yeux de tous les Béninois, c'est entre autres la mission que se sont assignés les gardiens de la tradition. Ils essaient y parvenir pour apporter leur pierre au retour à la paix encore très fragile au Bénin. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Depuis VOA Afrique en direct de Washington, voilà c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Darrell Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction et Idrissa Seludia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.